Un plateau spécial pour la Journée internationale des droits des femmes, c'est le 8 mars, et sur Radio Prévert, on a fait les choses comme il fallait avec le concours du service développement économique de la communauté de communes Sud-Sarthe. Bonjour Julie Oyonnax.
Bonjour Jocelyn.
Merci d'être coproductrice de ce programme spécial et plateau 100% féminin avec Émilie Besson. Bonjour.
Bonjour Jocelyn.
Coordinatrice et membre des femmes des territoires, vous nous présenterez dans quelques minutes cette structure-là. Et on est également avec Angèle Berthe Etundi, juriste au CIDFF.
C'est tout à fait ça. Bonjour,
bonjour. Et le CIDFF, c'est le centre d'information
sur les droits des femmes et des familles.
Et pour Femmes des territoires, Émilie Besson, c'est...
Eh bien, c'est un réseau d'entraide dans la création d'entreprises portées par les femmes et avec les acteurs locaux dans la création d'entreprises toujours.
Et Julie Oyonnax, le service développement économique, comme son nom l'indique, c'est...
C'est le service qui s'occupe de la compétence économie pour la communauté de communes Sud-Sarthe. Et moi, j'ai une mission particulière, c'est que j'anime pour la communauté de communes Sud-Sarthe le coworking avec l'animation d'ateliers et d'événements de réseautage et des événements qu'on en a fait aujourd'hui.
Justement, aujourd'hui, en amont du 8 mars, bonne journée internationale des droits des femmes, mesdames.
Et puis, merci.
Nous aussi, les hommes, nous sommes concernés, si j'ai bien intégré tout ce qu'il y a eu comme échange lors de cette table ronde que vous avez organisée sur la thématique que vous allez nous rappeler, Julie.
Alors oui, la thématique, c'était s'affranchir des violences sexistes et sexuelles au travail. Donc ça, c'était la thématique de la table ronde, sachant que dans la journée, il y a eu d'autres ateliers sur d'autres thématiques, mais toujours en faveur des droits des femmes.
Alors pourquoi spécifiquement cet axe-là pour célébrer ce 8 mars, Émilie Besson?
Cet axe-là parce que dans la création d'entreprises, les femmes ont beaucoup, beaucoup d'obstacles et de freins pour aller jusqu'au bout du projet de création d'entreprise et donc réussir par rapport aux hommes. Il faut rappeler qu'au niveau national, elles sont 30% seulement à être chef d'entreprise. Donc il y a encore du chemin. C'est pas beaucoup bougé depuis quelques années. Et puis surtout parce que derrière, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de facteurs qui sèment des gros cailloux pour arriver jusqu'au bout du chemin, qui sont des facteurs personnels, mais aussi des facteurs liés au financement, qui sont des facteurs sociaux, qui sont des facteurs psychologiques, des facteurs familiaux. Enfin, il y a plein d'autres choses qui font qu'il y a une vraie surcharge mentale et qui empêche vraiment de rejoindre des réseaux, tout simplement. Déjà, le premier départ, de rejoindre des réseaux pour pouvoir rencontrer d'autres personnes et pouvoir échanger sur son projet, pour pouvoir rencontrer les bonnes personnes pour nous accompagner à créer son projet, et puis aussi pouvoir gérer d'autres éléments qui font partie de la logistique de la création d'entreprise, qui sont effectivement la famille ou qui sont les problèmes de mobilité. Et donc, on a besoin d'être avec d'autres partenaires que la création d'entreprise.
Alors, Angèle Berthe Etundi, pour la juriste que vous êtes, un état des lieux s'impose pour que nous, les profanes, on y voit plus clair. Quel état des lieux peut-on faire au niveau de ces violences sexistes et sexuelles en milieu professionnel ?
Alors, il faudrait déjà dire que depuis 2018, il y a tout un arsenal législatif qui a été pris afin de combattre les violences sexistes et sexuelles en milieu professionnel. Et donc, cet arsenal juridique repose essentiellement sur la responsabilité des chefs d'entreprise qui ont l'obligation aujourd'hui de prendre des dispositifs en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles avec la désignation d'un référent à violences sexistes et sexuelles avec la mise sur pied des mesures de sensibilisation, de formation, etc. pour accompagner effectivement les professionnels afin d'obtenir un cadre plus agréable. Voilà, c'est ce que je peux dire sur l'évolution et l'état des lieux des VSST actuellement en France.
Alors Julie Oyonnax, c'est vous, entre autres, avec votre collègue Nicolas Massin, qui avez animé cette table ronde avec les intervenantes.
Oui.
Est-ce que pour vous, la préparer, était-ce évident ou alors vous vous êtes dit, tiens, on va prendre tel axe plutôt que tel autre axe ?
Alors en fait, ça a été une préparation de groupe collective. Donc moi, je n'ai pas travaillé toute seule les questions que j'allais poser. Le CIDFF m'a accompagnée parce que c'est une problématique, une thématique que je ne connais pas plus que ça. J'ai fait beaucoup de découvertes aujourd'hui. Bien sûr, Émilie Besson de Femmes des Territoires aussi m'a aidée et m'a accompagnée dans l'élaboration de ces tables rondes. Donc difficile, non, puisque accompagnée par des expertes.
Des expertes que nous avons l'honneur d'avoir sur Radio Prévert, donc on va en profiter, mesdames. Pour vous, Émilie Besson, je le disais, coordinatrice et membre des Femmes des Territoires, et selon ce que m'a dit Julie Oyonnax, vous n'êtes pas encore arrivée en Sarthe, mais vous êtes tout près.
Voilà, on est pour parler avec différents acteurs de la création d'entreprises, dans le local, hein, puisque c'est une plateforme nationale, et en ce moment nous sommes sur Angers, mais nous avons beaucoup d'adhérentes, qui viennent du Mans pour venir à la coordination d'Angers, participer à des ateliers. Et donc l'objectif, c'est qu'une antenne soit proche de chez elle pour qu'elle puisse connaître les acteurs de la Sarthe et non pas du Maine-et-Loire. C'est pas qu'on veut pas les recevoir, mais l'objectif de réussite, c'est d'avoir à moins d'une demi-heure de chez soi des professionnels qui puissent les accompagner, effectivement. Donc c'est dans le calendrier très rapidement qu'il va y avoir une antenne, effectivement. En attendant, on va faire des cafés rencontres pour pouvoir rencontrer d'autres femmes et envisager une inauguration d'antenne en Sarthe.
Et le lien avec la thématique « Femmes des territoires », s'affranchir des violences sexistes et sexuelles au travail, c'est un sujet pour vous, ça ?
C'est un sujet qui est tabou, il faut le dire, hein, parce que les femmes quittent le salariat pour rentrer dans l'entrepreneuriat et se dire « bah voilà, j'ai fermé une porte, je vais être tranquille ». Et en fait, non, c'est une thématique qui ne s'arrête pas si on ne l'a pas traitée de fond en comble avec des professionnels pour se faire accompagner, qui revient sans cesse, hein, parce qu'on la retrouve aussi, hein, le sexisme et les violences sexuelles, on les retrouve dans l'entrepreneuriat, sauf que c'est peut-être un petit peu plus tabou, parce qu'il y a moins de femmes, justement. Mais elles se retrouvent, quels que soient les secteurs professionnels, quels que soient les milieux sociaux professionnels aussi, et quel que soit son niveau économique. Il n'y a pas de frontière en fait. Hein. Tout le monde est concerné. Donc oui, on les retrouve parce qu'elles empêchent d'évoluer et elles empêchent de créer son entreprise. Et on reproduit inconsciemment, bien sûr, ces schémas-là dans des réseaux mixtes en fait. Et l'objectif, c'est d'être dans des réseaux au féminin pour pouvoir justement faire tomber ces barrières et ne pas parler de business, parce que même si on est là pour construire son business, on n'est pas là pour faire de la promotion commerciale. On est là pour faire baisser les masques sociaux. Et de pouvoir vraiment parler du quotidien sans gêne, sans honte, parce que c'est surtout ça, hein, c'est la honte qui intervient parfois. On pense qu'on est les seuls dans cette problématique et que c'est dans notre tête et que personne ne le vit. C'est de pouvoir justement casser ces barrières et de pouvoir en parler plus facilement autour de tables rondes, ailleurs que dans les endroits institutionnels en fait. Hein.
Alors, il y a cette parole que vous avez laissée circuler lors de cette table ronde. Et avant de vous donner la parole, Angèle-Berthe Etoundi, j'aimerais que Julie Oyonnax vous nous donne une idée sur les femmes actives du territoire qui sont venues.
Oui.
Et en gros, quels étaient les secteurs professionnels représentés ?
Alors, c'est un hasard, mais on a beaucoup de femmes qui sont auto-entrepreneuses, même si on ne dit plus trop ce terme-là.
On dit quoi ?
En micro-entreprise, hein, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Et qui sont dans la prestation faire de l'accompagnement, je vais trouver de bilan de compétences.
Okay.
On était une dizaine, elles étaient une dizaine aujourd'hui, et on avait quand même quatre femmes qui avaient ce profil-là. Mais pas de salariés, que des micro-entreprises. Voilà. Et puis pour la tranche d'âge, on était entre 30 ans et 50 ans, je dirais.
Alors, Angèle-Berthe Etoundi, est-ce que ça dit quelque chose, le profil des femmes qui sont venues ? Puisque ma question, elle est à double détente, puisque j'ai laissé traîner mes oreilles. Il y en a qui se disaient, bah, finalement, peut-être que ce qu'on fait, bon, il y a ces messieurs, certains de ces messieurs qui ne considèrent pas ça comme étant des professions, on va dire, allez, importantes ou qui ont de la gueule, si vous me passez l'expression.
Alors, il faut déjà dire que ces femmes aujourd'hui qui se retournent vers ce statut d'auto-entrepreneuse, hein, sont des femmes qui, hier, elles étaient salariées pour la plupart et qui ont démissionné, hein, vous avez peut-être entendu passer, pour des raisons de violence dont elles ont été victimes. Donc, aujourd'hui, ces femmes qui se retrouvent en statut d'auto-entrepreneuse, c'est pour se protéger. Elles se disent que ce monde est peut-être plus meilleur que le monde salariales et autres, mais je dirais non, parce que vous avez bien entendu, hein, elles font face à de nombreuses difficultés du fait qu'elles soient simplement des femmes.
Justement, on va en parler. C'est assez insidieux, mesdames, ce que j'ai eu à entendre. Déjà, il y a des biais en matière de considération, c'est ça ? Ça commence par ça, Émilie Besson ?
Oui, ça commence par des biais cognitifs, enfin, on va dire des représentations qui sont ancrées dans la société et même au niveau des femmes, en fait. Il y a des choses qui sont acceptées, entre guillemets. C'est-à-dire que tant qu'elles restent dans leur milieu où il n'y a pas d'autres personnes qui vont leur montrer autre chose comme repère, comme référence, qui vont être différentes de ce qu'elles vivent, elles vont penser que bah, il n'y a pas de questions à se poser, en fait. Ou si elles commencent à s'en poser, elles vont penser que ça vient d'elles, en fait. Et à partir du moment où elles rentrent dans l'entrepreneuriat, justement, tout se casse, tout est chamboulé au niveau des repères. Et elles ne vont pas forcément oser en parler parce qu'elles vont se dire bah, « ça vient peut-être encore de moi ». Et quelque part, elles vont reproduire ces modèles-là en se disant bah, « c'est une fatalité, je ne vais pas m'en sortir ». Donc c'est pour ça que je pense que ce sont vraiment des préjugés qui perdurent, y compris dans l'entrepreneuriat, même si on n'en parle pas. Parce qu'effectivement, dans le salariat, elles sont encore encadrées, donc on peut, même si ce n'est pas la majorité, hein, je ne veux pas dire que c'est mieux, attention. Hein. Je veux dire qu'elles ont encore un lien social, en fait, dans le salariat, avec bah, les salariés, avec les collègues, avec plein d'autres structures, en fait. Mais dans l'entrepreneuriat, elles se retrouvent seules, vraiment seules. Donc, même si elles sont accompagnées, elles ne vont pas oser parler des problématiques personnelles. Parce que c'est vraiment, ça touche le personnel, ça touche la sexualité, ça touche le psychologique, ça touche les enfants aussi. Et ça, quand on touche aux enfants, pour elles, c'est le pire de tout. Donc, elles n'osent pas en parler. Donc, elles pensent qu'elles sont seules. Donc, il y a des reproductions, quelque part, de comportements qui vont se perdurer dans l'entrepreneuriat, y compris dans les relations, quand on parle de prospection, les relations réseautage professionnel en entrepreneuriat. Elles vont se dire, bah, finalement, on retrouve ça partout. Alors qu'en fait, non. Enfin, oui, on va le retrouver, mais il faut y mettre un terme, quoi. Donc non, c'est pas normal, non, ça vient pas de soi-même. Les relations professionnelles, elles doivent rester strictement professionnelles, qu'on soit une femme ou un homme, et pas uniquement entre hommes.
Julie Oyono, chargée de développement économique, à entendre ça, dire qu'on dénie à ces femmes une expertise et qu'on se dise « Ah tiens, parce qu'elles sont femmes, non, elles ne valent pas des collègues ou des pairs masculins », ça vous fait bondir ça, chargée de développement économique que vous êtes ?
Ah, bien sûr, parce que moi, je le constate dans mon métier, je le vois avec...
Ah, pardon, je vous pose la question. Est-ce que vous le constatez ? Pardon, allez-y.
Oui, tout à fait, oui. Oui, je le constate avec les acteurs, les actrices économiques du territoire, ce qu'elles nous rapportent, les collègues aussi. Donc oui, ça nous parle forcément, c'est manifeste, ça existe encore. Et comme tu disais, Émilie, effectivement, il faut qu'on combatte ça.
Comment combattre ?
Alors, comment combattre ? Déjà, c'est pouvoir délier la parole, c'est parler, c'est aller chercher de l'aide, des personnes de confiance. On peut les trouver auprès du cercle familial, ça peut être des amis, ça peut être des collègues de service, mais aussi à côté, il y a tout un dispositif hein, dans la Sarthe précisément, ça peut être au niveau des associations, donc le CIDFF que nous sommes, nous avons Solidarité Femmes également, ça peut être France Victimes, il y a des syndicats, la CGT, donc il y a toute une panoplie de recours. Et donc, le point de départ, c'est délier la parole. Se dire, c'est pas ma faute, pouvoir dépasser le regard social, le jugement des autres, pour aller chercher des solutions.
Alors, on parle de violence sexiste et sexuelle, mais ça désigne quoi, précisément ? Qu'est-ce qui en relève ? Qu'est-ce qui n'en relève pas ?
Alors, à cette question, qu'est-ce qui relève des violences sexistes ? Les violences sexistes, c'est tout propos ou comportement à connotation sexuelle. Ça peut être un commentaire sur un décolleté, ça peut être un commentaire sur une tenue, un commentaire sexiste, arrête de faire ta blonde, etc. Donc, de cette catégorie, on dira ce sont des commentaires, des violences sexistes. Alors, Alors, elles deviennent des violences sexuelles lorsque c'est accompagné de faits et de gestes physiques, notamment poser ses mains sur les fesses d'une femme, par exemple, arracher un baiser forcé, poser les mains sur la poitrine ou le sexe d'une personne. À ce moment-là, il s'agit d'une agression sexuelle et donc une violence sexiste accompagnée du sexuel.
Émilie Besson, vous vouliez réagir ?
Non, non, mais ce que je voulais dire, c'était exactement ça, mais moi je ne suis pas dans la partie juridique, mais dans la vie de tous les jours, ce qu'une femme doit surtout retenir, c'est que dès qu'il y a un moment de gêne qui est ressenti, ce n'est pas normal, ça ne vient pas d'elle. Donc il faut absolument qu'elle en parle autour d'elle, parce que d'autres femmes vont forcément ressentir la même chose. Ça, c'est important.
Je retiens ce que vous dites, vous n'êtes pas dans la partie juridique, mais comme vous vous adressez à des chefs femmes d'entreprise, il y a quand même une responsabilité peut-être aussi de l'employeur par rapport à ces choses-là.
Alors moi, je ne suis pas employeur, parce que je suis donc coordinatrice, bénévole et entrepreneur à côté, à Femmes du Territoire.
Ah bah,
on est
bien.
Entrepreneur et bénévole. Et en tant que, alors, je ne parlerai pas en tant que salarié ni d'employeur, mais ou futur employeur, mais je parlerai en tant qu'engagement citoyen, tout simplement à la base même, parce qu'avant d'être dans un contrat de travail ou un statut professionnel, on est un citoyen et on est des citoyennes. Et donc, en tant que citoyen et citoyenne dans son groupe, autour de chez soi, même dans la rue, on constate quelque chose qui n'est pas normal, on ne ferme pas les yeux, on ne dit pas « mais non, j'ai cru ne pas bien voir ou ne pas bien entendre ». On est responsable de ce que l'on voit, de ce qui se passe autour de nous, même si nous, on n'est pas à l'origine de ce qu'on a pu entendre. On doit aider la personne qui est en face. Donc, ou l'aiguiller, l'orienter, ou signaler, en fait. Moi, voilà, c'est ce que je dis, on a un engagement citoyen tous les matins, quand on se réveille, quand on se couche, on a un engagement citoyen.
Julie Oyonnax, est-ce que vous avez déjà été confrontée à des situations similaires à celles qu'on décrit là aujourd'hui et comment avez-vous réagi ? Avez-vous fait la politique de l'autruche, comme on dit ?
Alors oui, j'ai été confrontée. Alors c'est difficile parce que on l'a évoqué cet après-midi, c'est qu'on ne sait pas. Donc là, on a eu des éléments de réponse, mais on ne sait pas quand est-ce que le sexisme commence et quand est-ce qu'il y a violence sexuelle. On ne l'identifie pas parce qu'il y a des parce qu'il y a des traditions, il y a des mœurs qui font qu'il y a des choses. C'est normal, il s'est passé ça, mais c'est normal, ça arrive à d'autres. Donc oui, avec le recul, je me rends compte que j'ai été confrontée à des situations problématiques. Mais comme je ne m'en rendais pas compte à l'époque où je ne voulais pas m'en rendre compte, j'ai rien fait. J'ai jamais. Je me suis tue.
Justement, comment réagir lorsqu'on est dans cet entre-deux, dans l'ambiguïté ? Vous parliez de gênance, Émilie Besson, Angèle Berthet-Toundi. Comment se situer par rapport à la frontière, la limite ?
Alors, comment réagir ? Moi, je dirais, je vais répondre sur le plan juridique.
Bien sûr.
Comment réagir ? D'un côté, c'est de dénoncer. Donc, s'il s'agit effectivement d'un salarié qui se retrouve dans le cadre d'une entreprise, c'est d'aller voir un référent, s'il y a le référent, pour pouvoir signaler, dénoncer la situation. Et donc, si on n'a pas de référent parce qu'on se retrouve dans une entreprise, par exemple, de moins de 11 salariés et qu'on a N plus 1, il faut se référer directement à son supérieur hiérarchique pour dénoncer les faits. Alors, on peut le faire de façon découvert ou à découvert, donc anonyme, ou décliner son identité pour se dire, voilà, je suis victime de ça, de ça, de ça. Et ce que la loi prévoit, c'est que l'employeur, effectivement, dispose d'un délai de 2 mois à compter de sa saisine pour mettre en place des dispositifs, soit sur un plan disciplinaire, engager la responsabilité de l'auteur de ces faits, ou effectivement le licencier ou le suspendre, donner un blâme afin de réprimer son acte. L'employeur également ayant, comme le dit la loi de 2018, la responsabilité d'assurer à l'ensemble de ses salariés la sécurité et le bien-être physique, il doit pouvoir accompagner la victime, soit auprès d'un accompagnement psychologique, etc., pour l'aider à se reconstruire, à se refaire de ces violences-là. Alors, sur un plan pénal et civil, la victime peut tout à fait déposer plainte auprès de la gendarmerie ou la la police ou saisir le procureur de la République. Donc, si effectivement l'employeur ne fait rien, sa responsabilité peut être engagée en qualité de complice pour ces faits. Donc, voilà, si on est citoyen et qu'on est victime de quelque manière que ce soit de violence sexiste ou sexuelle, je vais profiter pour rebondir, pour faire une nuance entre la violence effectivement sexiste sur le plan juridique. Ce qui est violence sexiste est classifié comme outrage sexiste. On peut tout à fait déposer plainte à titre de contravention et se voir voilà, soit dédommagé ou engager la responsabilité pénale. Voilà.
Est-ce que, Émilie Besson, Julie Oyonnax, vous vous dites que la société est en phase avec les paroles de la juriste qu'est Angèle-Berthe Etoundi, puisque selon ce que j'ai entendu tout à l'heure, vous parliez, je ne sais pas si c'est l'une d'entre vous, mais de polarisation de la société. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre.
Non,
Émilie Besson.
Il n'y a pas de polarisation. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ces problématiques ont toujours existé. Elles se sont plus. La parole s'est libérée. Et ce qui se passe, c'est que comme les femmes maintenant peuvent en parler et peuvent avoir l'information accessible, parce que c'est ça qui est important, eh bien en fait, les hommes, comment dire les choses
masculinistes et compagnie.
Non, ils se sentent finalement...
Féminisés, vous pensez?
Non, en danger quelque part.
Parce qu'on remet
en fait l'équilibre dans les rapports en fait, c'est plus un rapport de force.
Le patriarcat vacille, c'est ça?
Ça remet en question beaucoup de choses dans ce qui était admis depuis des siècles. En fait, c'est ça. C'est pas une question d'être opposé à un camp plus qu'un autre. C'est de se dire, il y a 50% de femmes en France. Pourquoi la représentation, elle est masculine? Pourquoi la santé, elle est représentée par les hommes? Pourquoi l'éducation, elle est représentée par les hommes? C'est aberrant d'avoir ça. La moitié de la population qui est évincée dans toutes les études, dans les recherches, dans le salariat, dans plein de choses, en fait. Pourquoi est-ce qu'on n'a qu'une vision du monde?
Donc cette équité, c'est ce que je déduis en creux de vos propos, cette équité, ce serait l'idéal justement pour ne plus en arriver à organiser un plateau radio sur ces thématiques-là? C'est ça l'idéal, Julie Oyonnax?
L'idéal, on ne pourra jamais l'atteindre et ça n'existe pas. Mais oui, tendre vers une équité, c'est indispensable et ça passe par l'éducation de nos enfants aussi. Évidemment que un monde sans violence, c'est ce qu'on veut. Donc une équité, c'est déjà moins de violence, forcément.
Moi, je rajouterais, si vous me permettez, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'idéal, c'est la réalité qu'il faut que l'on atteigne. Une réalité qui soit saine pour tous et pas juste pour la moitié de la population. Et surtout que prendre en compte la vie des femmes, leurs préoccupations, leurs violences, remettre tout ça sur la table, ça donne aussi une vision différente de l'environnement, de plein de choses, de l'innovation, de la créativité. Et on a quelque chose de beaucoup plus compétitif, de beaucoup plus durable. Et ça, c'est important parce qu'on a besoin de ça. Et aujourd'hui, on arrive à un mur où justement, on ne trouve pas de solution. Donc, remettons les femmes, mettons tout simplement les femmes au cœur du système, au cœur des décisions, au cœur des problématiques.
Mais on peut comprendre que ce soit complexe.
Julie, oui ou non.
On peut comprendre que ce soit complexe parce que le changement fait peur.
Voilà.
De bouleverser ce qui est déjà mis en place, eh bien, ça fait peur.
Et ces masculinistes dont on dit qu'ils se sentent autorisés à faire des choses, vu l'éclosion des différents réseaux sociaux, etc., est-ce que c'est un sujet pour vous aussi, en opposition à des féministes qui le seraient encore plus? Quel est l'horizon pour nous, finalement? Est-ce que c'est chacun dans son camp?
Ça reste quand même une minorité.
Heureusement.
Là, on parle quand même d'extrême. Et puis, l'extrême ne se change pas, en fait. Donc, des masculinistes, comme on dit, il y en aura toujours. Il y aura toujours un patriarcat, fort.
Non, j'espère pas.
Non, mais voilà, tout ce qui est extrême, ça existera toujours. Et ils sont d'autant plus virulents sur les réseaux sociaux, puisqu'ils peuvent s'exprimer librement, sous anonymat. Donc, pour moi, c'est à la marge.
Émilie Besson.
Alors moi, je dirais que à chaque fois, dans tout mouvement, en fait, dès qu'il y a une opposition, il y a de la résistance. Et ça, c'est naturel. Donc forcément, il y aura un masculinisme plus exacerbé et qu'il va falloir être prête aussi à vivre ça et à dépasser ça. Mais on n'a pas de changements qui se font dans la société tranquille. Ça n'arrive pas, ça, alors, malheureusement.
Alors, vous vouliez ajouter quelque chose, Julie ?
Non, j'approuve.
Angèle Berthet Toundi, tranquille, comme disait Émilie Besson, comment tranquillement répondre à ces différents enjeux, puisqu'on se dit qu'il y a de la transmission à assurer pour les jeunes générations, pour ne pas reproduire les schémas actuels. Ouais. Et vous, juriste au CIDFF, vous pouvez rappeler des choses sur le plan juridique, mais pas seulement, puisque je sais que vous accompagnez les femmes de bout en bout sur différents sujets. C'est lié aussi, ça ?
Oui, tout à fait. Tout est lié parce que pour revendiquer, pour changer les choses, c'est connaître ses droits et d'où notre existence. Donc, nous essayons d'apporter l'information à toutes les femmes dans tous les domaines de la vie parce que si on connaît le droit de la famille, je prendrai le basique. Voilà, monsieur doit contribuer, par exemple, aux tâches domestiques. Ça, c'est important. Ça relève ce côté d'égalité. C'est pas uniquement à la femme de faire ci, de faire ça. Il y a le côté économique, combattre les violences économiques, se dire que voilà, la femme a le droit d'aller travailler, d'avoir le même salaire que les hommes. Donc, l'information juridique que nous apportons aux femmes permet effectivement de tendre ou d'essayer de tendre vers cette société équitable que nous revendiquons. Nous ne revendiquons pas une société nouvelle. Nous ne voulons pas changer les choses, nous voulons juste faire respecter les choses telles qu'elles sont inscrites dans l'ensemble des codes et même des conventions internationales qui prônent l'égalité de genre entre les hommes et les femmes. Et cette égalité qui est chère, il faut le dire, à la Déclaration universelle des droits des hommes dans toutes les sphères, dans la sphère professionnelle, dans la sphère familiale, etc. J'en passe. Donc, effectivement, la mission du CIDFF, c'est apporter cette information, de rendre accessible ce droit à toutes les couches, que ce soit une femme rurale, une femme
citadine,
etc. Donc, c'est notre mission et nous y croyons fortement parce que mieux on est informé, mieux c'est et fortes nous sommes.
Pour qu'il n'y ait pas de banalisation dans la société des violences faites aux femmes, ça je l'ai entendu, c'est ça aussi un des objectifs à poursuivre et à atteindre.
C'est très important et c'est vrai qu'à travers Femmes des Territoires, dans l'entrepreneuriat, l'objectif aussi c'est de pouvoir se dire on peut entreprendre et surtout ne pas rester sur des choses qui semblent normales. Il n'y a rien de normal quand on ne le vit pas bien.
Et comment faire pour se faire accompagner, même si vous n'êtes pas en Sarthe comme le CIDFF à Femmes des Territoires ?
Alors Femmes des Territoires, en fait, c'est une association qui est nationale avec une plateforme, ou vraiment comme un réseau social où on a des activités, donc des ateliers professionnalisants, tout tourne autour de l'entrepreneuriat. Et donc l'objectif, c'est d'aider les femmes à créer une entreprise et donc d'avoir des ateliers avec les partenaires à distance. Donc il y en a toutes les semaines régulièrement. On est 2500 adhérentes avec 150 coordinatrices. Donc il y a cette plateforme parce que justement il y a des zones en France où il n'y a pas du tout d'accompagnement. Il faut le dire, c'est pas, on n'a pas suffisamment de ressources pour qu'il y ait des partenaires partout, qu'il y ait des institutions partout pour aider aussi bien sur le plan de l'entrepreneuriat que le plan juridique, tout ça. Donc il y a cette plateforme-là qui est vraiment un atout parce que pour les femmes qui sont éloignées en ruralité, il y en a vraiment beaucoup, il y a toute une diagonale, on le voit sur la carte de France. Et puis on considère qu'une femme peut réussir son entreprise et son écosystème, elle peut être épanouie que si elle a moins de 30 km de chez elle, 30 minutes pardon, de route, pour pouvoir se lier avec d'autres, avoir vraiment une vie sociale avec d'autres. Donc voilà, il y a cette plateforme, et après il y a des rencontres locales, une fois par mois minimum, mais il y en a plus évidemment, pour que les femmes puissent travailler leur entrepreneuriat et rencontrer d'autres acteurs qui vont les aider aussi à travailler tout ce qui se passe autour de l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a la famille, il y a les histoires de logement, il y a l'histoire de mobilité. Donc ça concerne toute la, toute une ville, toute une
tout un territoire,
toute une commune en fait, aussi bien la mairie que le droit des femmes, que les juristes, que enfin voilà, il y a plein d'acteurs qui sont concernés par la création d'entreprises des femmes.
Et vous-même, votre projet, c'est dans quel secteur ?
Alors moi, je suis déjà créatrice d'entreprise depuis un moment. Depuis 2019, je suis dans la création de noms de marque et tout ce qui est création de contenu pour des projets engagés. C'est grâce à Femmes des Territoires, au début, moi, je n'avais pas prévu de travailler toute seule. Hein, et Femmes des Territoires m'a vraiment apporté ce lien social, justement, et la connaissance du tissu économique pour rencontrer d'autres secteurs d'activité, d'autres acteurs. Et grâce à ce réseau de femmes d'entraide, on n'a pas cette notion de, comment dire, de promotion commerciale. Donc, on est un petit peu, entre guillemets, un petit peu protégé des sollicitations et de, quelque part des harcèlements commerciaux, hein, parce qu'on est des proies faciles. Hein, quand on arrive dans l'entrepreneuriat, on ne connaît rien, donc tout le monde nous met le grappin dessus. Donc, je trouve que c'est une sorte de protection. Et en même temps, moi, ça m'a permis de rencontrer d'autres femmes pour pouvoir, je suis justement en création d'un autre projet avec d'autres femmes sur quelque chose de beaucoup plus, pour travailler avec d'autres personnes, sur des engagements sociétaux. Mais c'est en secret pour l'instant.
Bon, peut-être c'est des trucs à travailler de concert avec Julie Oyono, chargée développement économique ici au service développement économique à la communauté de communes Sud-Sarthe. Alors, pour terminer cette émission, mesdames, je sais que chez les femmes, on parle beaucoup de rôle modèle, des modèles d'inspiration. Et je pense que nous tous, nous devrions aussi nous inspirer des gens qui ont de bonnes pratiques. Est-ce qu'il y a des figures qui, selon vous, peuvent inspirer les jeunes générations ? Si oui, quelles sont ces figures-là ? Et si vous n'en avez pas qui vous viennent à l'esprit, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil, ces jeunes générations qui vous écoutent, hein, que ce soit des filles, des hommes, en ce 8 mars, pour que, eh bien, on ne reproduise pas ce dont on parle là, pour qu'on puisse s'affranchir des violences sexistes et sexuelles au travail et ailleurs dans la société, puisque je sais que, intrinsèquement, c'est ce que vous visez in fine. Julie Oyono, pour commencer.
Alors moi, j'ai pas de figure connue, de célébrité en tête. Par contre, je me souviens de ma grand-mère qui est décédée, qui, elle, était très moderne sur ces questions-là, sur l'équilibre, sur l'équité entre hommes et femmes. Et mes grands-parents étaient déjà avant-gardistes avec un parfait partage des tâches et dans ce qu'ils nous ont transmis aussi, égalité homme-femme. Moi, j'ai vraiment baigné là-dedans avec mes grands-parents. Donc,
Angelbert et Tundi. Juriste au CIDFF.
Alors, comme figure qui me vient, hein, je parlerai de la figure de Maître Gisèle Halimi, hein, qui, grâce à elle, nous avons vu l'évolution des droits des femmes. Nous avons aujourd'hui l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Donc, c'est une brave femme qui a beaucoup, beaucoup donné pour faire évoluer le droit des femmes. Et donc, les jeunes générations peuvent s'inspirer, hein, autant des femmes que d'hommes, hein, de cette belle figure pour faire changer les choses.
Et vous, Émilie Besson ?
Alors, moi, les rôles modèles, le terme me gêne parce que pour moi, c'est forcément des gens qui ne sont pas dans notre quotidien. Eh bien, moi, pour moi, dans mon quotidien, ce sont mes grands-mères qui ont chacune eu des, comme Julie, hein, qui ont eu des rôles assez particuliers dans leur mode de fonctionnement et dans la société, qui sont battues pour qu'elles aient leur posture, leur statut et tout ça. Alors, en dehors de la famille, j'ai une personne avec qui que j'ai rencontrée et qui est la présidente de notre association nationale. C'est elle qui a créé Femmes de Bretagne, Femmes des Territoires, Bouge ta boîte, Bouge ton groupe. C'est une personne que j'ai rencontrée, donc pour moi c'est un rôle, on peut parler de rôle modèle, parce qu'elle était au fin fond de la Bretagne, dans un petit village avec ses enfants, seule, et elle a réussi à monter la pente avec ses idées en se disant « je peux y arriver ». Et pour moi, il n'y a pas besoin de forcément d'avoir un surdiplôme ou d'avoir un portefeuille économique énorme pour réussir. Il faut surtout d'abord croire en soi et se relier aux autres, parce que c'est ce qu'elle a mis en place en fait. C'est la connexion avec les autres femmes pour pouvoir réussir à changer les choses et déjà sortir elle de sa situation. Donc Marie-Éloi.
Merci à toutes les trois pour ces précisions. Je suis sûr que vous allez garder des liens et vous
entraider.
Voilà, justement, l'entraide, c'est un mot qui vous parle, la sororité, justement, comme dirait l'autre. Merci infiniment d'avoir accepté de témoigner sur Radio Prévert à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes. Merci à vous, Julie Oyono, d'avoir coproduit ce programme également, puisque c'est avec vous et grâce à vous qu'on peut le diffuser sur Radio Prévert et le proposer en podcast sur radioprévert.fr. Chargé de développement économique à la communauté de communes Sud-Sarthe, entre autres.
Oui, c'était un grand plaisir en tout cas. Et je pense que l'événement a été un succès. Les participantes étaient contentes.
Merci. Et les intervenantes aussi.
Et, tout à fait.
Et merci aux intervenantes.
Merci beaucoup, merci. Julie. Merci, Jocelyn, pour cette invitation aussi. Et puis pour vraiment ce bel événement. Pour qu'il continue.
Merci beaucoup Émilie Besson, coordinatrice et membre des Femmes des Territoires, et puis Angèle Berthe-Etoundi, juriste au CIDFF. Merci infiniment.
Merci.